Gabriel Vicaire, Rosette en paradis, tiré du recueil À la bonne franquette, à Tony Révillon. Rosette de Paris chausse tes souliers gris, passe la robe à traîne toutes tes fanfreluches. Rosette de Paris, allons en paradis. Deuxième partie. Hélas, le bon Saint-Pierre, le concierge des cieux, hélas, le bon Saint-Pierre n'est pas trop gracieux. Pour admettre Rosette, Rosette et ses chansons, pour admettre Rosette, il fait des façons. D'où venez-vous, la belle au collier de corail? D'où venez-vous, la belle en si folle attirail? À Paris, la grand-ville, Saint-Pierre, mon cousin. À Paris, la grand-ville, j'étais en magasin. À Paris, dans la rue de l'ancien doyenné, à Paris, dans la rue, j'ai pas mal gaminé. Ah, cet endroit, ma fille, est bien mal fréquenté. Ah, cet endroit, ma fille, manque de sainteté. Oui, mais comme on s'amuse, Saint-Pierre, mon ami. Oui, mais comme on s'amuse, on n'est pas endormi. On babille, on s'habille, on est toujours courant. On babille, on s'habille, et le mal n'est pas grand. Mais comment, ma petite, serviez-vous Jésus-Christ? Mais comment, ma petite? J'avais beaucoup d'esprit. J'étais la plus jolie, je savais bien danser. J'étais la plus jolie qui se fit embrasser. Troisième partie. Saint-Pierre a fait trois fois, en secouant ses manches, Saint-Pierre a fait trois fois le signe de la croix. Vous avez l'œil trop doux, et vos mains sont trop blanches. Vous avez l'œil trop doux pour habiter chez nous avec de pauvres gens absolument rustiques, avec de pauvres gens pas trop intelligents. Comment feriez-vous donc pour chanter nos cantiques? Comment feriez-vous donc? Allez, tirez le cordon. Je sais la mère Angot, chantez la belle affaire. Je sais la mère Angot, écoutez-moi plutôt.
Mais nos concerts pieux.
Il s'agit de s'y faire. Mais nos concerts pieux. Tout ira pour le mieux. Non, non, assez causé, maudite pécheresse. Non, non, assez causé, je suis scandalisée. J'eus le cœur inconstant, je n'étais que tendresse. J'eus le cœur inconstant, n'en peux-tu dire autant? Naguère au coin du feu, dans la cour du grand prêtre. Naguère au coin du feu, tu renias ton Dieu. Et le coq a chanté, comme avait dit le maître. Et le coq a chanté, criant à lâcheté. Je n'aurais fait jamais, pauvre petite femme, je n'aurais fait jamais tort à ceux que j'aimais. Adieu, mon chapelet. Enlevez cet infâme. Adieu, mon chapelet. Silence, pipelet. Quatrième partie. À peine il entend ce mot malsonnant, tout le paradis sort en bourdonnant, comme autour des treilles un essaim d'abeilles. Voici Saint Maurice en soldat romain, le grand Saint Joseph un lys à la main, Sainte Perpétue, toute de blanc vêtue. Voici Saint Antoine avec son cochon, Saint Roch et son chien, un parfait bichon. Saint Vincent, un signe patron de la vigne. Et puis Saint Jérôme et Saint Augustin, qui savaient très bien écrire en latin. Le bon Saint Grégoire, qui préférait boire. Saint Éloi, ministre et grand forgeron. Saint Denis des Champs, bonhomme tout rond, qui comble de graisse les chapons de Bresse. Saint-Loup, Saint-Maclous, Saint-Cloud, Saint-Crépin, Bruno le Chartreux, l'évêque Turpin qui tint la campagne avec Charlemagne, enfin Saint-Ursule et Monsieur Renan. Et derrière vont, trottant, trottinant, 11 000 vierges qui portent des cierges. Cinquième partie.
Ciel, qu'ai-je entendu? Dit sœur Cunégonde. C'est la fin du monde, tout est perdu.
« Mon Dieu, quelle affaire !» répond frère Jean. « Que c'est affligeant ! Que va-t-on nous faire ? Notre-Dame à nous, soyez-nous propices !» Et voilà Sulpice qui tombe à genoux. Mais quand les apôtres clameraient en chœur, Rosette a du cœur, elle en a vu d'autres. Elle fait trois pas, le poing sur les hanches, et ses barbes blanches ne la troublent pas. « La bonne folie ! Habitant des cieux, voyez donc mes yeux, je suis très jolie !» Pourquoi ces nez longs et ces faces mornes? Je n'ai pas de cornes sous mes cheveux blonds. Je sens la framboise, et non le roussi. Je n'ai pas de souci de vous chercher noise.
Chez vous, c'est parfait,
bien qu'un peu rocaille.
Et votre Versailles est d'un bel effet.
Le logis, la table, tout est fort plaisant, tout est reluisant, tout est confortable.
Je ne dis pas non.
Et c'est peint à la fresque.
Et cela vaut mieux que le Grand Trianon.
Surtout vos portiques sont du meilleur goût.
Hélas, voilà tout.
Et puis, quel cantique!
Toujours du plein chant, du soir à l'aurore.
En latin encore.
Ce n'est pas méchant.
Baste, laissez-moi dire, brebis du bon Dieu.
Attendez un peu, vous allez bien rire.
Il va à son prix, Paulus est fort tendre.
Je veux vous apprendre les airs de Paris.
Mille fariboles que nous connaissons, un tas de chansons folles, folles, folles.
Sixième partie.
C'est ainsi, m'a-t-on dit, que la belle parla. Mais le ciel n'entend pas de cette oreille-là.
Scandale énorme!
Autour de Rosette, impassible, un cercle s'est formé.
Seigneur, est-ce possible?
Encore ce Lucifer qui veut abuser.
Vite, vite, l'eau sainte! Il faut l'exorciser!
Et pour la voir de près, on se heurte, on se pousse.
Au premier rang, pourtant, un vieux saint d'humeur douce murmure.
Laissez-la, soyons plus complaisants. Voyez comme elle est jeune, elle n'a pas 16 ans.
Mais la troupe céleste,
oh la dévergondée, qui ne connaît ni Dieu ni diable, a-t-on idée d'une chose pareille? Est-ce que par hasard on recrute à présent les saints à l'Alcazar?
L'avez-vous entendue avec notre concierge?
Elle croit, j'imagine, être dans une auberge.
Et Rosette, toute très digne en son petit complet, dit
« C'est beaucoup de bruit pour un pauvre couplet. Que de propos en l'air, que de billevesée.
Vous n'avez donc jamais vu les Champs-Élysées ?
Ah, vraiment, c'est trop fort.
Vous ne connaissez donc ni Rueil, ni Chatou, ni le bois de Meudon ?
Vous n'avez jamais fait l'ombre d'une fredaine ?
Vous ne savez pas l'air de la Brigue d'Ondaine ?
Vous ne riez jamais ?
Je vous plains, bonnes gens.
Vous en seriez meilleur et bien plus indulgent.
Grand haro, pour le coup. On crie, on s'égosille.
Enlevez la sorcière. À la porte, la fille.
Quand tout à coup, chacun reste le bec dans l'eau. C'est le Père éternel, c'est le bon Dieu. Tableau. Comme un pâtre, appuyé sur son bâton d'érable, il entre, caressant sa barbe vénérable, et dans les plis royaux de son long manteau bleu, frissonne un soleil d'or. Intimidée un peu, Rosette gentiment a fait la révérence. Et lui?
Mes chers amis, cet enfant vient de France. Vous n'y comprenez rien, je n'en suis pas surpris.
Nous n'avons pas ici grand monde de Paris.
Mais quoi? Le cœur est bon si la tête est légère.
Saint-Pierre, en ton bercail, reçoit cette bergère.
Elle a l'éclat de rire et le parler joyeux.
Ouvre! Pour cette fois, nous fermerons les yeux.
Septième partie.
C'est ainsi que Rosette devint sainte en paradis. C'est ainsi que Rosette a cessé d'être grisette.
Adieu les belles manières qu'on avait au temps jadis.
Adieu les belles manières en usage aux condamnières.
À côté de Madeleine, elle est assise au lutrin.
À côté de Madeleine, elle chante à perdre haleine.
Et dans ses mains paresseuses fleurit un beau romarin.
Et dans ses mains paresseuses, on voit des roses mousseuses.
C'est une âme toute pure.
Qui de nous aurait cru ça?
C'est une âme toute pure, avec un brin de guipure.
La plus charmante âme blonde, ô vous tous qu'elle embrassa, la plus charmante âme blonde, que Dieu garde dans l'autre monde.
Lue par Sabine, pour audiocité.net, sous la licence Arlou.
Oh oh, et c'est parti pour cette séance de réchauffement de voix. Mais oui, c'est pas le vrai show. Non, c'est pas le vrai show. C'est pas ça du tout, mesdames et messieurs. Mais non, c'est comme si je faisais mon jogging, là. Ben oui. Écoutez, le vrai show, c'est demain soir à 21h. Mais en attendant, c'est la fête des Américains, comme le disait si bien l'autre. Eh bien, on est le 4 juillet. Bienvenue à cette édition. Bon, Twitter, des Disto News, une présentation de distoman.com et de radioimpact.ca. Avez-vous écouté mon contenu exclusif qui est diffusé sur mon site? Avez-vous fait ça? On n'a pas besoin de personne pour diffuser ça, là. Pas de Twitter, pas de FaceMard, pas de YouTube, pas de Vimeo, rien de ça. On est sur nos propres serveurs. Alors ça, c'est le fun. Je suis accompagné, bien entendu, à la recherche par Panda Patriote depuis le Saguenay, de Marie-Ève depuis Monkey. Monkey Box Montreal. Salut, monsieur ou madame Lachance. J'ai pas le temps de regarder si vous êtes un homme ou une femme, parce que je fais à peu près 15 affaires en même temps ici. Êtes-vous un non-binaire? Oh, je suis un non-binaire. Je suis accompagné, bien entendu, de Vic, survivaliste, conseiller stratégique spécial. Et crème-ninologue. Oui. Acharné. Jean-Luc Blackburn, chroniqueur. Hey Jean-Luc, si t'écoutes ça, s'il te plaît, envoie-moi un texte. Ça commence à chauffer. Le monde veut du Blackburn. Je répète, et tout le monde on dit ensemble, nous voulons du Blackburn. On veut du Blackburn. Guy Boulian, partenaire. GuyBoulian.info. Allez voir ses livres. Vous voulez vous coucher moigneuse à soir. Vous voulez apprendre des trucs pour pas cher. Et avoir soit l'édition électronique. Il y a un package deal assez intéressant sur son site, ou soit l'édition papier, qui est un document de référence, mesdames et messieurs, la Société Fabienne. Si vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque, il vous manque quelque chose. Vous ne verrez plus jamais la vie, la société comme vous pensiez qu'elle était de la même façon après, et tout ça, c'est sourcé, là. On n'est pas dans le délire, là. Les sources sont là, mesdames et messieurs. Guy Boulian est l'homme qui ne se trompe pas. Peter Saint-Onge, PhD, chroniqueur également, un homme d'une très grande connaissance qui a fait une multitude de médias mainstream, Fox News, MSNBC, name it. Et également, aujourd'hui, il a passé à Wall Street Silver, alors sur son canal YouTube. C'est quand même une grosse présence. Alors, Peter Saint-Onge nous gratifie de sa présence sur mon site Internet et j'en suis énormément reconnaissant. Bon, d'entrée de jeu, dans le début du show, vous avez entendu, bien entendu, bien sûr, si vous l'avez pogné dès le début, un entretien entre Denise Bombardier et André Arthur, deux titans qui viennent de se recroiser dans les couloirs, soit du paradis, soit de l'enfer, tout dépendant quelles sont vos allégeances politiques, bien entendu. André Arthur, un homme d'une très grande culture, un homme lettré, et Denise Bombardier, gauchiste extrême. Madame déplaisante, quand même cultivée, mais crissement déplaisante, OK? C'est une madame pas fine, surtout dans le couloir des toilettes au Centre Bell pendant les shows de Céline Dion, dans la section VIP, qui passe devant toutes les autres filles et qui se prend littéralement pour la reine d'Angleterre. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont vu ça aller, dont Colette. Et elle est décédée, bon... cancer du foie. Bon, c'est sûr que quand quelqu'un décède et qu'il a 82 ans, que si vous voulez qu'on dise, hein? Écoutez, c'est la vie. Hein? On est là, on a une date d'expiration qu'on ne connaît pas et puis, boup, on part. Nonobstant que Denise Bombardier ait été une personne déplaisante, une destructrice des libertés individuelles pour certains, une héroïne pour d'autres, elle a quand même laissé sa trace dans la micro-société qu'est le Québec, du moins, c'est pas tous les Québécois qui la comprenaient, Denise Bombardier. Là. Maintenant, il y en a beaucoup de Québécois qui parlent anglais, qui parlent arabe, qui parlent toutes sortes de langues qui, eux autres, Denise Bombardier, they don't care about who she is, who she was. C'est ça. Fait que, pour nous autres, on a appris à la détester pendant la pandémie pour X raisons. Tout dépend de quel côté du spectre vous vous trouvez. Du spectre des humains ou de la politique. Ça dépend de vos valeurs les plus profondes. Et puis, écoutez, maintenant, elle est passée à l'histoire pour les bonnes et les mauvaises raisons. On tourne la page, c'est quelqu'un parmi tant d'autres. Écoutez, tout le monde y a passé. Hein? Mozart y a passé. Echo the Dog y a passé. Imaginez-vous. Disto Dog est mort aussi. Je vais y passer. Écoutez, Raphaël y a passé. Michel-Ange y a passé. Name it. Tous ces grands noms qui se retrouvent, on ne sait pas trop où en haut. J'ai bien hâte de voir ça, moi. Qu'est-ce qui va se passer quand les lumières vont s'éteindre? C'est comme, hey, c'est-tu toi, ce gars? C'est-tu toi, ça, Jésus, gars, là? Tu pues des pieds un peu, toi? T'as une grande barbe, là? C'est-tu toi, ça? Ah oh, non, c'est l'autre. OK. J'ai bien hâte de voir ça. Je ne suis pas pressé, là, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Où est-ce qu'on se ramasse, puis toute la patente, là. Arrivez-moi vos théories, vous voulez m'écrire en privé, puis vous me racontez que vous avez la vérité infuse sur qu'est-ce qui se passe après la mort, eh bien, je suis bien heureux de lire ça. En Ukraine, à cette heure, oui, parce que c'est un réchauffement, ça, c'est un show d'à peu près 10-15 minutes, parce que demain, j'arrive avec un segment de pratiquement une heure avec la musique, toute la patente. Le mercredi soir, c'est une tradition ici, fait que... La fameuse centrale de Zaporizhzhia. Oui, les 6 ou 8 réacteurs nucléaires. Là. J'ai pas toutes les données à portée de la main, mais c'est une des plus grandes en Europe. C'est le plus grand complexe nucléaire qu'il y a en Europe, je pense. Les Ukrainiens crient au meurtre comme quoi que les Russes vont faire sauter ça. Les Russes disent que c'est pas eux autres, c'est les Ukrainiens. Bref. Une zone de guerre avec des infrastructures essentielles qui desservent tout le monde, dans le fond, comme ça, et des énervés de la pire espèce des deux côtés. Il y en a, les purs et durs pro-russes vont dire « Non, c'est les Ukrainiens », puis les pro-ukrainiens, pro-OTAN vont dire « Non, c'est les Russes ». Écoutez, tabarnak, la seule chose qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que quelqu'un touche à ces hosties centrales-là. OK, il ne faut pas qu'il arrive de dispersion radioactive en Europe. On n'a pas besoin de ça, mais pas en tout, parce que là, il y a des politiciens qui sont trigger-happy, qui, peu importe que ce soit Zelensky qui fait sauter ça ou Poutine, je ne pense pas que les Russes fassent ça, ils sont pas assez stupides. Eh bien, ils vont surréagir et ils risquent d'avoir une escalade assez impressionnante, non seulement au niveau militaire, mais également les marchés financiers risquent de très mal réagir à ça, en passant. Fait qu'il ne faut pas que ça arrive, tabarnak. Et pourquoi les Ukrainiens seraient-ils plus tentés de faire sauter le bouchon de Zaporizhzhia plus que les Russes au niveau tactique? Eh bien, on va regarder ça ensemble très rapidement. On va revenir, en arrière. Selon le ministère russe de la Défense et une multitude d'observateurs du front ukrainien, c'est très facile, on a des images par centaines, on a énormément d'analyses satellitaires. Eh bien, l'offensive de grande envergure, tant attendue, surtout par l'OTAN, et menée par les Ukrainiens, ça a commencé le matin du 4 juin. Bon, il y a 5 secteurs du front sud de Donetsk qui englobaient la 23e et la 31e brigade mécanisée des forces stratégiques des forces armées ukrainiennes avec le soutien d'autres unités et sous-unités militaires qui se sont lancés sur ce front-là. D'un coup, bang, comme des sauvages. Ils ont été sévèrement mutilés par l'artillerie russe avant d'atteindre les lignes et ils ont battu en retraite dans le désordre. Et ça a été le cafouillage le plus total. Fait qu'au bout de la ligne, 6 bataillons mécanisés puis 2 bataillons de chars ukrainiens ont été impliqués. Et puis, plus tard, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que le 5 juin, Kiev avait tenté une offensive dans 7 directions avec les forces de 5 brigades. L'offensive a été stoppée et il a subi des pertes encore plus importantes, plus de 1600 militaires, 28 chars, dont 8 Léopard 2 et 1, et 3 chars à roues AMX-10, 136 unités, d'autres équipements militaires, dont 79 combattants étrangers, étaient sur place. Alors, si vous ne croyez pas ces chiffres, eh bien, il y a une multitude de photos et de vidéos pour les prouver. Alors, à ce stade-là, dans le temps, les sources ukrainiennes se sont tues sur la question de leur contre-offensive tant promise depuis très longtemps. La supposée grande offensive pour libérer les terres historiquement russes de Novorossiya et de Crimée ont, depuis lors, continué à cacher leurs pertes tout en proclamant la victoire dans une libération de quelques petits villages qui ont été détruits pour la plupart, perdus quelque part dans la zone grise entre les lignes de front russes et les lignes ukrainiennes. Fait que rien de vraiment à se taper les bretelles là, du côté ukrainien. Alors, lentement mais sûrement, par définition, on disait « les Ukrainiens donnaient leur plus d'armes puis plus d'argent, puis tout va bien aller, mais le même jour, il faut se rappeler que le New York Times rapportait que Kiev avait commencé sa contre-offensive, selon des responsables américains, sur la base d'informations provenant de satellites militaires américains et de l'OTAN également, qui montraient un certain mouvement des troupes ukrainiennes. Alors, il est à noter que certains de ces équipements-là, des équipements occidentaux quand même assez avancés, ont été détruits, en particulier les véhicules de combat d'infanterie Bradley, qui sont quand même encore potables, et la version M2A2 de 2003 et les chars Léopard 2, qui était la version 2A6, la deuxième plus récente de l'OTAN, parce qu'après ça, c'est le 2A7. Et le Canada, c'est ça qui opère des 2A6, et ça n'a pas été concluant. Alors, imaginez-vous les militaires canadiens qui s'élancent contre des concentrations de troupes russes avec leur Léopard 2A6. Ils ont même des 2A4 encore plus anciens. Les Léopard 2A6 canadiens modèle CAN, parce qu'au Canada, tout s'appelle CAN. Eh bien, c'est des 2A4 qui ont été modernisés pour la plupart. Ce qu'on appelle des versions canadiennisées. Alors, on ne sait pas si les chars Léopard qui ont été détruits, c'était des chars Léopard canadiens, mais supposément que c'est juste des A4 qui ont été là-bas. En tout cas, alors, il y a beaucoup d'analystes qui affirment que la 47e brigade de l'armée ukrainienne a perdu 7 chars Léopard 2 et 17 véhicules de combat d'infanterie Bradley en seulement 5 jours. C'est pas mal. C'est beaucoup de ferraille. Ça représente environ la moitié de tous les Léopard 2 envoyés, les fameux 2A6, et environ 15% des véhicules de combat d'infanterie Bradley que l'Ukraine avait reçus. Fait que c'est des bonnes pertes, là. Ça a fait patate, le patron. Alors, il faut également noter que la plupart des victimes ukrainiennes faisaient partie des troupes les plus motivées, les plus armées, les plus entraînées selon les normes de l'OTAN. Ils étaient crinqués, cette gang. Ils sortaient de l'école. Alors, puis les pertes sur la ligne de front ne représentaient qu'une fraction au total. Bon, le reste, bon, c'était causé par des attaques de roquettes puis de l'artillerie russe qui est extrêmement puissante sur l'arrière de la ligne. Le tout s'élevait à plus de 7000 depuis le début du mois de juin. Fait que l'artillerie russe, ils savent travailler, ils sont bien équipés, les gars sont calmes, ils savent qu'ils ont des bonnes machines entre les mains. Un peu rustique, mais ça fonctionne avec des bonnes troupes de guidage d'artillerie. Fait que ça commence à donner du résultat. Dites-vous que l'artillerie russe est la plus puissante au monde en ce moment. On parle d'artillerie, là. Alors, il y a eu une séance de contre-questions de plus de 3 heures avec les correspondants de guerre. Bon, Poutine, il y a un mois, il a détaillé les pertes. Le rapport entre les pertes ukrainiennes et les Russes, c'est du 10 pour 1. Le taux de mortalité est d'à peu près 25 à 30 % du côté russe. Et on parle de 50 % et peut-être même plus du côté ukrainien. Alors, il faut dire qu'une grande partie de ce qui reste d'armée ukrainienne, eh bien, le reste du matériel, ça fait partie de l'ancien héritage militaire de l'époque soviétique, là. Mais sans l'artillerie, les blindés suffisants et sans les lignes d'approvisionnement que les Russes fournissaient régulièrement pour rafraîchir tout ce matériel-là. Alors là, on fonctionne encore plus sur les réserves, là. Et là, ça ne regarde pas bien parce que le matériel de l'OTAN, il se fait claquer, là. Alors, si les troupes de choc entraînées par l'OTAN ne peuvent pas atteindre les lignes russes, bon, bien, qu'en est-il de ceux-là qui profitent de chaque occasion pour tant de chiffons blancs puis de se rendre? Et puis, lorsqu'ils sont chargés d'enterrer les mines terrestres, ils laissent des notes sur celles-ci à l'intention des sapeurs russes qui doivent ensuite les déterrer à leurs frères. Nous sommes les mêmes que vous. Ne nous battons pas. Alors, bien sûr, bon, il y a des mines terrestres qui sont ornées de croix gammées, d'où la nécessité d'une dénazification, mais ça fait partie de l'histoire. Alors, quel est le but de tout ce carnage, là? C'est complètement gratuit, là. Alors, selon des responsables américains, l'objectif principal des forces armées ukrainiennes, c'est de couper le pont terrestre qui relie la Crimée à la Russie, en laissant que le pont du détroit de Kerch et le service de ferry vers le continent opérer. C'est tout. Alors, tout tourne autour de la Crimée, mesdames et messieurs. Dites-vous que la Crimée, c'est la clé dans toute l'histoire. Les Américains aimeraient bien y installer une base navale de l'OTAN. Bon, si chaque Ukrainien doit mourir pour que ça soit possible, eh bien, go! Qu'il en soit ainsi. On s'en fout des Ukrainiens. Ce qu'on veut, c'est contrôler la Crimée. Même l'Imran Sheikh Hassan, cet imam-là bizarre, qui est un Américain, qui parle anglais, en a parlé du contrôle de la Crimée. Qui contrôle la Crimée? Contrôle la mer Noire. Et selon lui, c'est pas mes paroles, mais selon lui, ça va même déboucher sur un conflit nucléaire de grande intensité, toute cette histoire-là. Moi, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, bon, les responsables américains sont pas assez honnêtes pour le dire ouvertement, là. Non, non, le succès de la contre-offensive va avoir deux conséquences. Alors, ça va renforcer la position de l'Ukraine à toute table de négo, et ça va rapprocher la probabilité que la Russie se concentre enfin sur des négos visant à mettre fin au conflit. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Anthony Blinken qui l'a dit le 12 juin. Là, vous allez me dire, ouais, le 12 juin, ça fait quand même un bout. Il y a eu l'histoire de Prigozhin, puis de Wagner, tout ça. Oui, 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 mais il faut faire un arrêt sur image, mesdames et messieurs, pour se poser la question, qui a avantage à blaster le complexe nucléaire de Zaporizhia? Qui a avantage à ce que l'OTAN se mêle de tout ça? Qui? Je vous pose la question. Ça se répond peut-être avec un gars qui porte un nom qui commence par Z. Les Juifs qui virent alentour de ça. Il y en a beaucoup là, de Juifs dans l'histoire. Il y en a, là. Les gars se parlent, puis eux autres, ils veulent que ça avance. Alors, à l'époque, Blinken, il n'a pas indiqué quelles seraient les conséquences en cas d'échec de la fameuse contre-offensive ukrainienne, probablement parce que il n'y aura pas de conséquences dignes d'être mentionnées dans ce temps-là. C'est ça. Mais là, Z, lui, il ne veut pas que l'OTAN décide de lâcher. Non, 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 là. Par ailleurs, bon, à l'époque, les Russes se concentraient déjà sur des négociations, et ça depuis bien avant le début de l'opération militaire spéciale. Là. Fait que les Russes, eux autres, ils veulent négocier. Ils ont gagné le territoire qu'ils veulent contrôler. C'est fait, là. Ils se sont rendus jusqu'au Dniepr, Novorossiya est sécurisé. Et puis, la Crimée est sécurisée, tout baigne pour eux. Ils n'ont pas besoin d'aller à Kiev, pas du tout. Ils n'ont pas besoin de ces territoires-là. Alors, bon, à l'époque, là, en novembre 2021, la Russie avait formulé ses exigences. Les troupes de l'OTAN doivent sortir de leur position de 1997. L'Europe de l'Est reste militairement neutre, conformément à un accord antérieur. Il n'y avait pas lieu de discuter d'autres choses. Bon, à quoi ça servait de conclure de nouveaux accords si l'Occident ne respectait même pas les promesses qu'elle avait déjà faites? En ce qui concerne les Ukrainiens, les exigences de démilitarisation, de dénazification complète sont toujours d'actualité. Bon, si on parle des 5 régions anciennement ukrainiennes qui font déjà à nouveau partie de la Russie, l'idée actuelle, c'est que l'Ukraine doit céder 3 autres provinces russes, soit Kharkov, Nikolaev et Odessa, pour régler la question. Mais elle doit être prête à organiser des référendums sur l'indépendance vis-à-vis du régime de Kiev et l'adhésion à la Fédération de Russie dans certaines des autres aussi. Là, on pourrait voir où cela nous mène. Le siège du gouvernement du régime de Kiev sera déplacé de Kiev à Lvov, puis Lvov pourrait être rebaptisé de Lviv à Vlaar, qui retournera en Pologne. Puis l'ancienne République socialiste soviétique d'Ukraine, la chimère impie concoctée par Lénine à l'époque et Staline, sera alors complètement désoviétisée. Ça va être terminé, cette épopée-là. Bon, c'est fini, là, les seigneurs de guerre qui arrivent là, puis qui ramassent des armes, puis qui revendent à tout le monde à travers le monde. C'est fini, terminé, là. Terminé la corruption. Terminé la mafia juive. Terminé Zelensky. Terminé, ils savent. Ils ont besoin d'un trigger pour que l'OTAN rentre là-dedans, pour sauver leur État. Ils ont des milliards à blanchir. Alors, pour en revenir au rêve des Américains d'une base navale de l'OTAN à Sébastopol, en Crimée, là. Bon, c'est la base qui contrôlerait toute la mer Noire, qui couperait l'accès de la Russie à la mer Méditerranée. L'idée que la Russie céderait la Crimée si l'Ukraine parvenait à couper le pont terrestre, c'est tout simplement fantaisiste. La Crimée a passé 8 ans au sein de la Fédération de Russie sans que ce pont-là terrestre existe, et quand même 4 ans sans le fameux pont de Kerch que les Russes ont bâti. Ils ravitaillaient la péninsule de Crimée à l'aide de ferries, mesdames et messieurs. Et oui, ça fonctionnait très bien. Alors, priver la Crimée de l'eau du fleuve Dniepr, comme l'a fait récemment le régime de Kiev, en faisant sauter le barrage de Kakhovskaya, bon, c'est pas susceptible non plus de faire l'affaire. La Crimée a tenu 8 ans sans ce taux-là. Mais apparemment, c'est trop de choses à se rappeler pour les fonctionnaires américains, ceux-là de l'OTAN, qui ont du mal à se souvenir du week-end dernier. Parce que oui, les temps sont durs, mesdames et messieurs. Ça va pas bien. Mais c'est pas grave. La machine à billets, elle imprime, et puis les billets imprimés sont distribués à toutes les mafias du coin. Alors, revenons brièvement sur le fait que le sacrifice par l'Ukraine de ses meilleurs éléments ne lui a même pas permis d'atteindre la première ligne de défense russe. Alors, selon la doctrine militaire russe, l'objectif de la première ligne de défense, c'est pas d'arrêter les troupes qui attaquent, mais de les affaiblir, de les ralentir, les épuiser, puis, en fonction de la situation, de participer à des attaques de flanc ou de battre en retraite. C'est ça, là. Alors, la défense étagée est conçue pour résister à une force ennemie qui pénètre jusqu'à 35 km, puis couper son ravitaillement, l'encercler et la détruire. Dans ce point de vue, la contre-attaque a été jusqu'à présent totalement inefficace. Ils sont sortis, ils ont brûlé, ils ont saigné, puis ils sont rentrés chez eux, soit à bord d'un véhicule à moitié défait ou soit dans un sac en plastique. C'est à votre choix. Alors, enfin, qu'est-ce qui se passe avec les normes de l'OTAN, des armes miracles et de l'entraînement? Le blindage brûle vraiment bien. Hein? Et certains chars Léopard de AC sont brûlés avant même d'avoir tiré un seul obus. Oh, ça a été très, très surprenant. Alors, l'entraînement a conduit les Ukrainiens à attaquer sur un champ de mine en suivant file indienne. Un Léopard occupé d'une charrue censée balayer toutes les mines sur son passage. Et ça n'a pas bien été. Les Russes, vous avez juste à attendre que l'ensemble du train blindé, acheté à crédit, atteigne le milieu du champ de mine, éliminer le char Léopard de tête, équipé de la charrue. Bon, alors, la seule option qui s'offrait à l'ensemble de la colonne blindée, c'était de contourner la charrue et de tenter leur chance en roulant sur le champ de mine. Mais par malchance, un autre char explose parce qu'immédiatement, puis un troisième, puis un quatrième. Puis là, l'artillerie tombe. Il y a beaucoup d'équipages qui se sont abrités entre les chars explosés afin d'éviter d'être touchés. Mais ça ne servit à rien et ça n'a pas duré longtemps. Il y a beaucoup d'équipages qui ont abandonné leur char avec les moteurs en marche et ils ont tenté de se replier à pied. Pauvres autres. Bon, il y a beaucoup de véhicules de combat d'infanterie Bradley, de construction américaine, avec des cocardes de l'Ukraine dessus achetées à crédit, qui dégorgeaient leurs troupes. Les gars sortaient par la porte d'en arrière qui était ouverte. Mais les gars, battaient en retraite. Tout le monde était bloqué. Le seul Bradley qui a pris la peine de s'arrêter pour récupérer du monde s'est retrouvé tellement chargé qu'un soldat a tout simplement été jeté dehors. Les Russes y ont filmé tout l'événement, en secouant lentement la tête en signe de stupéfaction. Et puis enfin, certaines des troupes qui ont réussi à rejoindre leur propre ligne à pied ont été fauchées par des tirs ennemis qui provenaient de leur propre camp. Face à tout ce bordel-là, la réaction russe, ça a été, plus d'armes, plus d'entraînement de l'OTAN et plus d'Ukrainiens, s'il vous plaît. On en veut d'autres. C'est comme les Gaulois qui claquaient des Romains. Prochain, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le camp de Baba Rome. Demain, ça va être Petit Bonhomme. Fait que, de toute manière, là, dites-vous une chose. L'OTAN va cesser d'armer les Ukrainiens de toute façon parce que toutes les armes sont maintenant en rupture de stock un peu partout. Bon, puis les pluies d'automne vont finir par s'installer. Puis là, les fameux blindés miracles de l'OTAN, s'ils survivent jusque-là, ils ont été conçus pour des climats plus ensoleillés, ils vont s'enliser dans la boue profonde, dense, noire et extrêmement fertile, qui fait la renommée du coin. Alors, entre-temps, le régime de Kiev va poursuivre son terrorisme dans les médias occidentaux. Ils vont éviter soigneusement de parler de leur débâcle. Mais là, ils ont décidé de peut-être essayer de tenter autre chose. Et c'est toute l'hystérie à propos des Zaporijia qui est en train de s'installer. Il y a comme une espèce de préparation médiatique qui est en train de se mettre en branle un peu comme dans le truc de l'affaire de Wagner et Prigozhine. Le terrain est beaucoup trop propre, mesdames et messieurs. Le plancher est propre. Et là, tout ce qu'on attend, c'est que les gens embarquent sur le plancher et traversent pour aller faire ce qu'ils ont à faire. Les gens sont préparés. Alors, écoutez, il faut se rappeler qu'il reste encore beaucoup d'écoles, de maternités, de centres commerciaux, de cliniques, d'immeubles russes à la portée des roquettes et de l'artillerie ukrainienne. Et contrairement aux cibles militaires russes, eh bien, ces gens-là ne ripostent pas. De plus, l'Occident continue de fournir aux Ukrainiens des armes qui pénètrent de plus en plus loin sur le territoire russe. Alors, le terrorisme est peut-être plus sûr que la contre-offensive, mais les terroristes mourront aussi. Cependant, ils peuvent peut-être essayer de toucher à cette infrastructure essentielle-là dans le but d'accélérer les choses. Parce que, dans le fond, les Ukrainiens savent très bien que ce n'est pas eux qui pourraient régler le problème de l'OTAN. Mais c'est peut-être l'OTAN elle-même. Mais l'OTAN ne semble pas disposer des capacités opérationnelles, de troupes régulières. On ne parle pas d'aviation, on ne parle pas de nucléaire, on parle de troupes régulières. Pour pallier à la situation, alors, place à la négociation, mais si il n'y a pas de négo, et puis qu'on décide de faire sauter cette installation nucléaire-là, de quelque manière que ce soit, et puis qu'il y a des fuites radioactives, et que le feu prend là-dedans, puis que ce soit le bordel, et puis que les vents dominants soient d'ouest, et que ça s'en aille directement vers l'Europe industrialisée, eh bien, mesdames et messieurs, on risque d'assister à quelque chose de très désagréable, tant sur le point de vue politique, militaire qu'économique. Eh bien, c'était mon petit réchauffement pour aujourd'hui. Je suis en train de me faire craquer les épaules, de checker mes vieux genoux de 52 ans. Je vais revenir demain soir avec un contenu beaucoup plus étoffé que ce soir. Merci pour votre écoute. Si vous connaissez des gens qui souhaiteraient consulter le concept d'histoman.com, par exemple, pourriez-vous leur transmettre? On vous remercie de faire passer le message. Take care, gang! À la prochaine!
Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news? Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Boulian. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres, nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Guy Boulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.guyboulian.info.
Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.
Mais bien sûr, tout le monde veut que Emmanuel Macron puisse se représenter.
D'un mot, quand vous avez entendu parler de toutes ces histoires de pédophilie dans l'église avec les prêtres, vous aviez 11 ans, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce sentiment de
géante?
Et puis, on a diminué 30% les salaires des ministres et on se rend compte qu'il y a des gens qui se disent « c'est pas possible ». Alors on a interdit le cumul des mandats, on se rend compte maintenant que c'est une énorme connerie.
C'est complètement fou. Ça se passe au Maryland, le Maryland, un état américain. Un homme a une maison connectée. Vous savez, aujourd'hui, des gens qui parlent à Google ou à Alexa, etc. Vous savez, maison connectée, tout le système est finalement intégré. Sa vie est connectée par le système Amazon. Donc tout son existence, ses mots de passe, son ordinateur, son portable, tout dépend de cet univers. Dans cette maison qui est la sienne, il reçoit un livreur Amazon qui vient déposer un paquet chez lui. Vous savez, il est accueilli non pas par une personne, mais par un système, un système d'accueil automatique. Bonjour, vous êtes chez, je sais pas, machin chose, et déposez le paquet. Le livreur, qui portait des écouteurs, qui écoutait de la musique, croit entendre une insulte raciste. J'insiste parce que c'est important. Le lendemain, le type, le propriétaire de la maison est chez lui, et là, sa maison devient, il n'y a plus de contrôle sur son ordinateur, sur son téléphone, il n'y a plus de contrôle sur sa maison connectée, sur sa maison intégralement sur le mode Wi-Fi. Il connecte le téléphone à Amazon, on dit, ben voilà, j'ai plus accès à rien, est-ce que c'est parce que quelqu'un a cherché à se hacker, à me hacker, à pénétrer dans mon système, un mode d'autodéfense est arrivé, ça a verrouillé le système pour empêcher le hacker de prendre le contrôle de ma maison. Là, le type d'Amazon dit, non, vous avez vraiment aucune idée pourquoi votre maison est bloquée, verrouillée, bien sûr que non. Et là, il raconte l'histoire d'un employé qui s'est dit victime de racisme, et dès lors, parce que l'employé s'est dit victime de racisme, Amazon a bloqué, dépossédé l'homme de sa maison qui avait plus accès aux différents instruments, aux différents téléphones, portables, faites la liste de tout ce qu'il peut avoir dans une maison. Alors là, le type dit un instant, dans ma maison, j'ai des caméras, tout est filmé, donc on va vérifier est-ce que ça s'est passé. Diffuse, il appelle les gens de la maison, il dit non, regardez, les caméras, là, tout est filmé, ce que mon système d'accueil vocal a dit, c'est bonjour, déposez le paquet. À quel moment il y a une phrase raciste là-dedans? Et là, les gens de la maison sont un peu embêtés. Ils disent bon, c'est vrai, effectivement, c'est mauvais, pendant une semaine, il ne pourra pas récupérer sa maison. Et là, ça devient public, Newsweek notamment, un magazine qui va particulièrement complotiste ou conspirationniste ou d'extrême droite ou tout ça, Newsweek raconte les événements, et voilà la réponse d'Amazon. Exceptionnel. Nous nous efforçons d'offrir à nos clients une expérience agréable, tout en veillant à ce que les chauffeurs qui livrent les colis se sentent en sécurité. Dans le cas présent, notre enquête nous a appris que le client n'avait pas agi de manière inappropriée. Et nous travaillons directement avec lui pour résoudre ses problèmes, tout en cherchant des moyens d'éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. Autrement dit, s'il avait agi de manière inappropriée, et ce serait curieux de savoir ce qu'est l'inapproprié en question, eh bien, Amazon aurait été en droit de priver cet homme de sa maison, de priver cet homme de son ordinateur, de priver cet homme de son portable, de priver cet homme de sa vie, de priver cet homme de son environnement, parce qu'il aurait eu un comportement inapproprié. Tout cela est orwellien ou dystopique, ou choisissez Black Mirror, choisissez l'image, mais on est là-dedans.
J'ai compris, monsieur.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire.
Oui, je l'ai déjà dit, Twitter respectera la réglementation. C'est la quatrième fois que je le dis. Ou la troisième.
Mais c'est bien qu'on l'entende, parce qu'il y a quelque temps, le ministre Barrot en doutait et vous menaçait de vous bannir de France et d'Europe. Vous l'avez entendu, ce message-là aussi.
Vous savez, encore une fois, pour la énième fois, Twitter ne va pas violer la loi. Twitter va respecter la réglementation. On ne va pas être plus royaliste que le roi et faire un zèle tel qu'on dépasse les dispositions légales. S'il y a des dispositions que l'on veut promulguer, elles seront promulguées et on les respectera. Mais on ne veut pas, nous, société privée, aller au-delà de la volonté du peuple et en faire plus.
Alors moi, il m'épate.
Jamais ça ne vous est arrivé, ça?
Si, mais ça ne m'est pas arrivé avec des curés, ça m'est arrivé en orphelinat. Nous avions des attouchements. Même nos juges, puisque vous voulez me faire parler, je vous le dis. Même nos juges, les juges pour enfants, dans les années 50, faisaient des attouchements sur les enfants dans les orphelinats. L'orphelinat, ça n'incente pas, ça. C'est connu. Il y a de grands politiques qui ont des dossiers.
Ah bon?
Ben c'est pour ça qu'ils ont fait une belle carrière.
Non, vous rigolez.
Bah, évidemment. Vous connaissez des politiques qui n'ont pas de dossier, mais qui font
non, mais là, carrière, sur, ouais. Sur les attouchements avec les enfants, c'est ce qu'on appelait les balais roses à l'époque.
Mais oui, mais ça a toujours existé, ça a toujours été.
Et vous-même, vous en avez été victime, vous dites, de la part des juges ou de.
Victime,
oui, quand même.
Bon, quand il faisait tomber son crayon, ou elle tombait, ou il ouvrait sa braguette. On se racontait ça entre nous, et puis voilà.
Vous avez fait des fellations à des adultes ou des choses comme ça?
Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais on s'est laissé un peu tripoter, oui, parce qu'on avait droit à des bonbons. Enfin, c'est une image, mais c'est un peu ça, oui.
Dans cette école sans Dieu, dans cette école de francs-maçons.
Nous organisons une semaine de la fierté chaque année, et j'ai fait venir notre centre de santé LGBTQ+. Il faisait passer des plugs anneaux et des godes à mes étudiants. Il parlait de sexe queer, d'utiliser du lubrifiant plutôt que d'utiliser de la salive.
Nous sommes en guerre.
God save the Queen, man.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, porte-t-il une responsabilité dans la pénurie de masques dont a souffert la France au début de l'épidémie au printemps dernier? Dans un rapport très sévère rendu public aujourd'hui, une commission d'enquête du Sénat pointe sa responsabilité. Qu'en est-il exactement, Julien?
Bonsoir. C'est l'un des visages de la crise sanitaire. L'actuel numéro 2 du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, mis en cause par les sénateurs.
Salomon, Slimane, Salomon, Zazin, vous seriez pas un peu cousin?
Je voudrais vous revenir à votre déclaration. Vous êtes un intellectuel et vous savez que de tout temps, associer les juifs à l'argent est le premier des clichés antisémites. Et pourtant, vous vous êtes livré à ce cliché en associant les milieux bancaires et les milieux sionistes. Que répondez-vous à ceux qui disent c'est une déclaration antisémite?
Je réponds
que... Vous le savez que c'est de tout temps utilisé par les antisémites.
L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme.
Oui, ça c'est le monde hein, qui va...
Hein. Ça vous a pas traumatisé?
Ben si, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, je trouve ça... Ça me fait frémir même que ça existe encore. Vous savez, mais les orphelinats aujourd'hui c'est sorti. Hein, on croit que tout a évolué, tout ça c'est sorti. Ces histoires d'abandon, d'adoption.
Mais ce qui est terrible à votre époque, c'est des gens qui abusaient de leur autorité.
Mais déjà, le fait de disposer de la vie d'un enfant alors que ce n'est pas le vôtre, je trouve ça très sincèrement.
Et vous œuvrez, vous militez contre ça aujourd'hui encore, parce que vous êtes assez discret.
Non, je ne suis pas un militant. S'il faut ouvrir ma gueule, je l'ouvre, mais je ne suis pas quelqu'un qui va... Je ne suis pas armé pour cela.
Mais tout à l'heure,
suffisamment bien entouré pour cela.
Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites qu'on le savait, ça veut dire que vous saviez que certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières.
Mais bien entendu.
Moi j'ai fait mon coming out homosexuel à 14 ans.
Moi j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie. Je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire.
J'ai jamais avoué à mes parents parce que c'est pas possible.
Salut, c'est Maurice de Stimuli Queer et je suis à la Pride pour parler avec vous de vos coming out.
Du coup j'ai fait mon coming out à 15 ans et je l'ai fait par courrier à mes parents que j'ai laissé dans la boîte aux lettres.
Il y a 2-3 ans que j'ai compris que j'étais ace et là tout récemment que j'ai compris que j'étais arrow ace. Et je suis aujourd'hui encore en train de questionner quel genre j'ai. Si je suis, je pense que je suis gender fluid, mais c'est encore à voir.
J'ai fait mon coming out proprement dit à 19 ans, mais je ne vivais pas vraiment ça parce que dans mon pays, proprement dit, c'est interdit en fait. Je suis arrivé en France et là, j'ai juste envie de profiter.
C'est quoi ce truc?
À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Adrénochrome. Bande de charcutes chrétiens. Je traîne la mort! Bourgeois de mes couilles!
Mais surtout, on se dit, et c'est là où c'est incroyable, et la réalité dépasse toujours la fiction, on se dit que le contenu de cet ordinateur, les preuves de corruption sexuelle, de corruption financière, de corruption de dépravation morale, de drogue, etc., c'est quelque chose que les services russes, effectivement, auraient pu imaginer. Ça sert intégralement la propagande de Poutine et la propagande de Xi Jinping qui dénoncent l'effondrement moral de la démocratie américaine et de la classe dirigeante américaine. Mais on se dit que ça apporte peut-être pas de l'eau, pas des trompes d'eau, j'allais dire des chutes du Niagara aux conspirationnistes de tout poil, qui se disent « on nous ment, on nous cache tout, on nous dit rien, la justice est frelatée, les médias ne disent pas la vérité, les réseaux sociaux sont tenus ». Là, ils en ont quasiment des preuves, en fait. Donc on comprend qu'il y a une espèce de dialectique absolument infernale entre d'un côté l'espèce d'état profond de gens qui se disent « bon, on va protéger la démocratie, les valeurs de la démocratie, contre le peuple, contre les populistes ».
Peux-vous dire précisément ce que vous allez chercher ? Un piège à con.
Bien entendu. Je n'ose pas vous demander le nom.
Ah bah non, ça je ne vais pas le faire.
Mais qui sont devenus des personnalités haut placées.
Mais le monde politique, le monde de la justice française en est plein.
Alors on a l'impression, ceux qui vous écoutent vont vous dire Diva, Hervé Villa.
Mais bien entendu, mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir.
La République est moins que rien. Ceux qui nous gouvernent sont des canailles et des curés. Vive l'anarchie.
C'est bien qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec les taux qui remontent, avec la fin de l'argent magique, avec cette inflation, on se réveille. Moi, je dis qu'on est dans la salle de réveil.
Oui.
Après une grosse anesthésie.
Autrement dit, tu es ce qu'on appelle un homme fermement tenu par les couilles. Non, excuse-moi d'insister, mais t'es toujours un type fermement tenu par les couilles, hein?
Et comme ces gens qui cherchent toujours une solution à leurs problèmes, qui mettent tous leurs ennuis sur le dos des juifs ou bien des francs-maçons, sans comprendre que si on veut savoir pourquoi ça tourne pas rond, en supposant qu'il y ait vraiment une raison, c'est parce qu'on trouvera, c'est pas une seule raison, mais mille raisons.